présenté par Eve Martin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Aujourd'hui, Lisa et moi recevons Amélie Picard, Anaïs Mouget et Luna Timbal, étudiantes au LOM, pour parler des journées jeunes chercheurs en acoustique musicale, audition et signal audio les 26 et 27 janvier prochains. Et puis en deuxième partie d'émission, Lisa nous fera part de son échange avec Anne-Julie Rollet. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et je vous propose de démarrer cette émission avec Cornerstone d'Arctic Monkeys. I thought I saw you in the battleship, but it was only a look-alike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you? For me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name. Tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your face. Comme je le disais en introduction, ce soir je reçois trois doctorantes au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, le LOM, qui vont nous parler des journées jeunes chercheurs en acoustique musicale, audition et signal audio les 26 et 27 janvier prochains. Bonsoir à toutes les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors est-ce que dans un premier temps vous pouvez chacune vous présenter?
Je m'appelle Luna Timbal, je suis en deuxième année de doctorat. Donc, au LOM, donc au laboratoire d'acoustique, et c'est là où j'ai fait quasiment tout mon parcours post-bac. Donc j'ai fait quasiment toute la licence et le master au sein de l'université en acoustique. Du coup, c'était logique de continuer sur un doctorat à la fin de mon master orienté recherche, du coup. Voilà.
Moi, c'est Anaïs Mouget. Je suis ma troisième année de doctorat et je suis arrivée au LOM, je suis dans le même laboratoire que Amélie et Luna. Je suis arrivée en septembre-octobre 2023. Et avant, je n'avais pas fait du tout mes études au Mans. Et je suis arrivée pour mon doctorat. Voilà.
Et donc, moi, je m'appelle Amélie Picard. Pareil, je suis doctorante. Je suis en deuxième année de doctorat. Et je suis arrivée au LOM pour mon doctorat. Et avant, j'ai commencé l'acoustique en M2. Et avant, je ne faisais même pas de l'acoustique, je faisais la physique. Donc, je viens de débarquer quasiment.
Depuis tout à l'heure, on parle du LOM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est et la fonction qu'a ce laboratoire dans l'université ?
Le LOM, donc, c'est le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Le LOM, il a été fondé par le couple Michel et Anne-Marie Bruno en 1980. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien. Et aujourd'hui, c'est le plus grand laboratoire d'acoustique d'Europe. Et c'est du coup logiquement le plus grand de France. Et au début, c'était un petit laboratoire qui a grandi, qui a beaucoup de salles, qui a beaucoup d'infrastructures qui l'entourent. Il va y avoir donc tous les locaux à la fac, il va y avoir le Technocampus, il va y avoir l'ENSIM, l'école d'ingénieurs à côté, où il y a certains enseignants-chercheurs qui ont leur bureau là-bas et qui enseignent l'acoustique là-bas tout simplement. Sachant que tout est relié ensemble et il y a tout est partagé en fait. De même qu'il y a l'IUT aussi où il y a certains équipements. Et il y a aussi une partie à Angers, à l'ESEO. Donc maintenant c'est vraiment un gros laboratoire. Et c'est aussi le plus grand centre de formation en acoustique de France. Il y a environ 500 étudiants chaque année. Et c'est le seul en France qui prend dès la licence. Ce qui en fait un peu l'originalité. Dès qu'on sort du bac, on peut tout de suite aller étudier l'acoustique au lieu de faire une prépa scientifique et au lieu un peu de tourner autour du pot quand on sait que c'est vraiment ça qui nous intéresse.
Et est-ce que vous pourriez expliquer en fait ce que c'est l'acoustique pour celles et ceux qui ne sauraient pas vraiment le définir ?
L'acoustique, c'est un domaine de la physique et de la mécanique. Ça s'intéresse aux
propagation des ondes mécaniques. C'est ça la définition exacte.
Et l'acoustique, c'est plus particulièrement le son, puisque c'est la propagation des ondes dans l'air. Mais sauf que au LOM, on travaille sur toutes les propagations de type d'ondes. Donc dans les solides, on va dire que c'est les vibrations. Dans l'air, là, on parle plus d'acoustique. Il y a aussi le couplage entre les deux, donc quand il y a à la fois dans le matériau, à la fois dans l'air. On travaille aussi dans différents milieux, quand ça se passe dans l'eau, quand ça se passe dans le corps humain, avec la bioacoustique. Et en fait, ça paraît très niche, mais ça peut toucher tellement de disciplines différentes en fait, en même temps.
Et la base qu'on a souvent, c'est « Ah, tu fais de l'acoustique, tu fais de la musique ». Alors oui, je peux en faire dans mes loisirs, mais ce n'est pas forcément ce que j'étudie et... On n'a pas tous fait de la musique avant d'arriver là.
Oui, ça n'a rien à voir avec le métier d'ingénieur du son.
Non,
rien
c'est à différent. Voir,
ouais. On pourrait faire l'amalgame.
Ouais.
Il y en a pas mal qui commencent dans l'un et finissent dans l'autre, okay. Ou l'inverse. mais y a pas, c'est pas la même chose.
Et dire qu'on travaille dans l'acoustique, c'est aussi large que dire je travaille dans la mécanique. Pour ceux qui sont familiers, il peut y avoir mécanique de un peu tout. Donc, c'est pas si niche que ça en a l'air.
Je vais juste faire un peu un intermède comme ça. Pour revenir sur ce que vous disiez sur le LOM, est-ce qu'il participe justement à faire du Mans la capitale du son ?
Alors, oui, peut-être un petit peu. Alors, la capitale du son, j'avoue que je connais pas exactement les modalités de ça. Mais par contre, par exemple, la Biennale... la Biennale, donc le Mans Sonore qu'il y a en ce moment, c'est une initiative, si j'ai bien compris l'histoire qu'on m'a racontée, ce serait à vérifier, mais de base c'était une initiative d'un professeur du TALM, donc l'école des Beaux-Arts, et d'un professeur du LOM, d'un enseignant-chercheur du LOM, Jean-Pierre Dalmont, il me semble, ils ont été à l'origine de ce projet. Et il y a très longtemps, et que ça a mis beaucoup de temps à se lancer, à se mettre en place, mais que c'est une idée qui finalement date, en fait, et en effet qui vient un peu de ça.
Et je pense qu'avoir un groupe de gens, donc un laboratoire, avec énormément d'enseignants-chercheurs qui sont spécialisés de du domaine, ça aide pas mal à, à faire du moins la capitale du son, du coup.
C'est vrai, c'est vrai. vous faites partie du comité d'organisation des journées jeunes chercheurs en acoustique musicale, audition et signal audio. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que sont ces journées ?
Alors, c'est des journées, donc c'est 2 jours, dans lesquelles des jeunes chercheurs et chercheuses, alors quand on dit jeunes chercheurs et chercheuses, c'est des personnes qui n'ont pas de poste fixe, donc notamment des doctorants et des post-docs, se retrouvent pour présenter leur sujet de recherche et échanger entre nous. Donc c'est organisé par des jeunes chercheurs, pas nous. C'est, les participants sont des jeunes chercheurs, par contre, il y a aussi des vieux, enfin, des gens qui ne sont pas jeunes. Et on a aussi des tables rondes auxquelles participent des chercheurs seniors, du coup, pour présenter d'autres sujets, des sujets,
d'autres, enfin,
des thématiques spécifiques,
voilà,
des
merci.
Journées. Et ça va être, on essaie de prendre des gens qui sont reconnus dans le domaine, de façon juste qu'ils puissent apporter toutes leurs connaissances, tout leur savoir-faire à nous, pauvres petits étudiants.
Et puis, en recherche, c'est assez courant qu'on aille à l'international ou nationalement faire des conférences, donc c'est-à-dire présenter ce sur quoi on travaille et rencontrer des personnes qui travaillent sur des thématiques similaires pour faire des collaborations et tout ça. Donc c'est un point important de la vie de chercheur. Et donc ces journées jeunes chercheurs, ça permet aussi aux apprentis chercheurs de se former à ce genre de journée. Donc à la fois de se former à l'organisation, donc c'est ce qu'on fait, et à la fois aussi à se former à parler devant du monde, savoir vulgariser son travail, apprendre à faire des rencontres, lier des contacts dans le milieu. Donc c'est...
L'idée, c'est d'avoir un environnement un peu plus tranquille pour commencer à faire ses présentations.
Ouais, c'est ça, j'allais dire moins intimidant que devant des chercheurs aguerris. Et,
Donc toi, tu l'as déjà fait, par contre.
Alors, oui, j'étais vraiment pas rassurée.
Toi, tu l'as déjà fait, Luna ?
Non.
Toi, Nécessi ?
Oui, plusieurs fois.
Toi, t'es en troisième année.
Oui, j'ai commencé par Nord-Amérique avant de faire Le Mans.
Ah oui, rien à voir.
Oui, ouais, ça...
oui l'objectif, c'est vraiment de vous professionnaliser ou de vous montrer ce qui peut vous attendre plus tard.
C'est comme une petite étape avant les gros congrès, on va dire ça comme ça. Sachant que aussi, c'est plus réduit. Là, c'est une présentation de poster. C'est pas une conférence où tu vas avoir 15-20 minutes à tenir sur ton sujet avec tes 15 diapos où tu vas sortir ton speech d'un coup, totalement stressé, et où tu vas paniquer parce qu'après, il y aura des questions de chercheurs hyper reconnus qui ont travaillé sur ton sujet et où toi, t'es là, oui, je sais pas. Et parce qu'en fait, tu paniques totalement. L'idée, c'est justement de faire une étape avant ça, de faire une transition douce, on va dire ça comme ça.
Puis aussi les rencontres, puisqu'on rencontre des gens de notre âge qui vivent la même chose, mais dans des laboratoires différents. Donc, des fois, après, on retrouve dans d'autres congrès plus importants. Donc, c'est un truc, c'est un peu plus chill que les gros congrès. Et puis, c'est entre jeunes, donc c'est quand même chouette.
L'idée, c'est aussi de se lier pour des projets à l'avenir. Il y a aussi, on est encore en études, puisqu'on est doctorant, on est encore en train de se former, mais... Oui. À un moment, on ne sera plus juste des étudiants. Après, et il y a aussi un moment où il faut avoir les liens pour ce moment-là.
Ouais, c'est comme une grosse pré-soutenance, on va dire.
Non, pas vraiment.
Ouais, c'est pas vraiment le sujet de la thèse, du coup, c'est plus...
C'est une partie du travail qu'on fait, mais le travail de la thèse, il est terminé qu'à la toute fin des 3 ans.
Ouais,
donc il y a plein d'étapes entre-temps. Donc on présente les étapes sur lesquelles on travaille en ce moment.
Okay.
Et puis discuter aussi avec les gens, ça permet d'avoir des avis extérieurs. Des fois, il y a des personnes qui arrivent, qui remarquent quelque chose que nous, tête dans le guidon, n'avait pas vu depuis 2 ans. Ah oui, c'est intéressant d'avoir un autre point de vue de personnes externes.
Et surtout, on présente vraiment une toute petite partie de notre thèse. Enfin,
oui.
je, Oui, non, vous ne vous présentez pas au JDK.
Oui. Parce qu'Amélie, elle a la double casquette. Elle organise et elle présente aussi ses travaux pendant les journées. Donc, elle est à la fois organisatrice et conférencière.
On est deux du comité d'organisation à présenter également parce que nos sujets de thèse sont en lien avec le thème des JJCAS. Alors que pour le coup,
ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Et justement, les journées, elles s'articulent autour de trois thématiques, l'acoustique musicale, l'audition et le traitement du l'audition et le traitement du signal audio. Comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez un peu expliquer chaque thème
Acoustique musicale, c'est très souvent rattaché donc à tout ce qui est instrument de musique, c'est logique. Je pense qu'il y a un peu tout ce qui est toute la recherche sur les salles et sur le jeu des instrumentistes. Même si le jeu des instrumentistes, on va commencer à être à cheval sur la partie audition, parce que la partie audition est rattachée aussi à la thématique de perception sonore. Mmh. Du coup, en général, il peut y avoir des projets assez à cheval là-dessus. Audition, donc très axée perception, psychoacoustique également.
Comment notre cerveau va percevoir les sons, comment est-ce que le cerveau fonctionne lié au son. Donc c'est vraiment une thématique à part entière dans l'acoustique très générale, comme on disait au début.
Et après, pour la partie signal audio, c'est limite ce qui va être le plus large, je pense, parce que ça peut toucher à de l'électroacoustique. Donc je crois qu'il y a des gens qui font un petit peu de synthèse de chant dedans, donc comment recréer
des
environnements sonores à partir de réseaux de haut-parleurs ou ce genre de choses. Et sinon, y a tout ce qui est traitement du signal audio, traitement de la parole, traitement de l'intelligibilité. Il va y avoir un petit peu, et là, ça va rejoindre l'audition aussi. On voit que tout s'entremêle assez facilement. j'ai l'impression que j'ai cru voir dans le programme des présentations pas mal de traitement du signal, traitement de la voix. Et de filtrage de la voix pour une meilleure compréhension ou
Parmi les invités chercheurs reconnus qu'on reçoit, il y a une chercheuse qui a travaillé sur la reconstruction de l'audition dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Pas tant l'audition, mais toute l'acoustique de la cathédrale.
L'acoustique de la cathédrale.
De la cathédrale et de tout le quartier de Notre-Dame lors de sa construction. C'est Mylène Pardoen, je pense que c'est notre tête d'affiche, un petit peu. Et c'est quelqu'un qui a un CV très, très impressionnant, qui a fait énormément de choses, qui a fait ce projet incroyable où, c'est débile de dire le produit final, mais où, au final, suite à ses travaux, il y a une application et juste, on peut télécharger l'application et se balader sur l'île de la Cité. Et avec des écouteurs, on a tous les sons comme si on était en mille et quelques à la construction de Notre-Dame.
C'est dingue.
C'est dingue.
Genre, c'est un travail de fou qu'ils ont fait avec énormément de recherches archéo, historiques. Ouais, reconstruire, genre, à tel endroit, il y avait un tailleur, à tel endroit, il y avait un forgeron. Et quel bruit ça faisait à l'époque. Et parce qu'il y avait quoi comme outil. Et du coup, quand tape un outil sur le truc qu'il y avait pour taper à l'époque, quel bruit ça faisait. Et c'est un énorme projet assez fou qu'ils ont fait.
Et justement, pourquoi avoir choisi ces thématiques?
C'était un choix personnel, je pense que c'était...
Les thématiques des JJCAS.
Ouais, c'est ça.
On les a pas choisies.
Ouais.
Okay. D'accord.
Pour le coup, les JJCAS, de même que les JJCAB,
Et les JJCAP.
Ouais. c'est les journées jeunes chercheurs qui sont... C'est d'ailleurs, je pense que c'est une marque déposée par la SFA.
Peut-être.
La SFA, c'est la Société Française d'Acoustique. C'est la grosse asso des acousticiens français, on va dire.
D'accord.
Et qui chapeaute un peu tout ça.
Parce qu'en France, il y a plusieurs laboratoires d'acoustique. Donc chaque chercheur a son laboratoire qui l'encadre, dans lequel il travaille. Et ce laboratoire-là est rattaché à un groupe national, comme il y a dans beaucoup de choses en France. Et cette SFA, donc, elle organise plein d'événements et elle chapeaute un peu les journées jeunes chercheurs. Donc il y a plusieurs thématiques, et au Mans, donc c'est le Mans qui a été désigné pour accueillir celle-ci.
D'accord.
Puis les autres, c'est acoustique. JICAB, c'est acoustique et vibration et bruit. Et JICAP, c'est acoustique physique.
D'accord.
Donc, plein de sous-domaines encore.
Et normalement, il y en a tous les ans, tous les deux ans, en fonction des possibilités d'organisation, des volontés de chacun et autres. Mais l'idée, c'est d'en faire un événement vraiment régulier pour permettre que tous les doctorants puissent au moins participer à une pendant leur thèse, quoi. Une de ces sessions.
Eh bien, je vous propose de marquer une pause musicale et puis on se retrouve juste après. Voici Gorillaz d'Air. De retour dans l'amphi sur Radio Alpa, on est toujours avec trois étudiantes au LOM pour les journées jeunes chercheurs qui auront lieu lundi et mardi prochain. On voulait savoir, est-ce que tout le monde peut accéder à ces journées, à qui ça s'adresse?
Alors, donc ça s'adresse principalement aux jeunes chercheurs et chercheuses.
Évidemment.
Donc, après, les chercheurs et chercheuses seniors peuvent aussi y assister, juste pas participer, ou alors si pendant les tables rondes, mais ça c'est quelque chose à part. Et on a aussi invité les étudiants de master du Mans et de licence aussi, quoi.
Master, licence, c'est un peu tôt, même si on aurait bien voulu.
Okay.
Et
donc,
c'est libre à eux. Ils peuvent y venir s'ils le souhaitent,
d'accord.
Mais on n'a pas eu la banalisation.
D'accord, donc des étudiants de licence et de master, mais plutôt de master, pour assister s'ils veulent découvrir.
NSIM et TALM également.
Okay,
et pareil, TALM, on n'a pas eu beaucoup de contacts, donc on verra bien qui est intéressé.
Et après, ce n'est pas non plus de la vulgarisation, donc les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans la recherche scientifique, a priori, ce n'est pas adapté pour eux. Après, on a aussi des stagiaires de troisième qui vont finir, qui sont là.
C'est l'occasion pour eux de voir ce genre d'événement. Ils sont en stage, autant qu'ils viennent.
Mais peut-être plus de voir comment ça se déroule que d'acquérir des connaissances scientifiques, même si, pourquoi
tout
pas.
Est bon à prendre.
Ils peuvent toujours comprendre.
Il y a certaines thématiques qui sont plus compliquées à saisir que d'autres, plus techniques. Je pense que on a choisi de faire une conférence pour signal audio. À chaque fois, on a trois conférences, une par thématique des journées. Et la conférence pour signal audio, pour traitement du signal, ça serait sur les plugins et le traitement du signal en temps réel. C'est un sujet très actuel et parce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul pour faire du gros traitement en temps réel. Et l'idée, c'est comment faire ça. Et je sais qu'il y a pas mal d'enjeux, il y a pas mal de recherches en cours là-dessus. Et ça, je me dis que ça va être très technique. Même pour moi, je me dis que ça va être bien technique. C'est pas mon domaine particulièrement. Et on verra bien.
Après, il y a toujours des moments d'échange. Donc, puis les questions sont toujours bien reçues. Hein, donc, même s'il y a moins de... personnes comprennent moins le technique, tu as la possibilité de discuter et rencontrer les personnes si on est intéressé par le sujet. Ça fait toujours plaisir.
Vous l'avez un peu évoqué, de nombreux événements rythment ces journées, notamment des tables rondes. Quels sont les sujets de ces tables rondes?
Alors, perception vibratoire, vibro-acoustique. J'allais dire pour la première, mais en fait, non, c'est plutôt la dernière.
C'est à l'envers.
Archéo-acoustique, donc avec tout ce dont on parlait sur reconstruire Notre-Dame, et donc plugin signal audio dont parlait Luna. Et après ces trois tables rondes, il y aura aussi une table ronde qui s'appelle PhD et après, qui pour le coup n'est pas vraiment n'est pas vraiment de la recherche scientifique, c'est plutôt que fait-on après son doctorat.
Parce qu'on est quand même pas mal à être un peu perdu des fois.
Voilà.
Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de débouchés, et c'est un bon petit bazar pour s'y retrouver là-dedans.
Puis si on est en master et intéressé par la recherche, c'est aussi chouette d'assister et voir qu'est-ce qui s'ouvre après. Il y a plus de choses que ce qu'on croit. On a essayé d'inviter beaucoup de profils diversifiés pour cette table ronde, afin qu'on se rende compte qu'on peut faire... Il n'y a pas qu'une seule voie, quoi.
Et des gens... plutôt jeunes, histoire qu'ils se souviennent encore de leurs doutes quand ils étaient à notre place.
Il y a aussi des sessions posters. En quoi ça consiste, concrètement?
Alors, tout simplement, les jeunes chercheurs et chercheuses ont des posters, donc une grande affiche qui résume un peu leurs recherches. Et présentent leur poster et chacun peut échanger avec les auteurs et autrices des posters, leur poser des questions si jamais on est intéressé, tout ça. et des remarques, des propositions, bref, discussion libre. Sachant qu'avant les sessions posters, il y aura aussi une session de présentation flash où on a 2 minutes pour présenter très rapidement le sujet de thèse. Enfin, du coup, non, pas le sujet du poster plutôt. Ouais. Voilà, pour faire un teaser, comme tu dis, et pour essayer d'inciter les gens à venir voir le poster.
Et après, la session poster, c'est en libre circulation. Donc, s'il y a un sujet qui nous intéresse plus qu'un autre, on peut aller voir juste cette personne. C'est normal, ça se fait.
Et maintenant, plus personnellement, dans votre parcours, donc on a un peu évoqué tout ça, mais qu'est-ce que ces journées jeunes chercheurs elles vous apportent, à part un peu une sorte d'avant-première de ce qui vous attend plus tard ?
Il y a cette avant-première, et nous, pour l'organisation, tout simplement, on n'avait jamais fait ça avant. Et c'est quand même du boulot, en fait, à organiser. Et par exemple, l'année dernière, on a vu, il y avait le Congrès français d'acoustique, qui est un énorme congrès avec je ne sais plus combien de personnes qui viennent, mais c'est en bonne centaine si ce n'est pas en milliers.
Je ne saurais pas te dire, mais c'est quand même un rendez-vous assez incontournable des gens dans le domaine en France. Et comme il y a plein de domaines dans l'acoustique, il y a beaucoup de gens.
Et où en fait on retrouve, entre guillemets, un peu ce genre de modèle, sauf que c'est pas la même taille, quoi.
Oui.
C'est pas et le même budget.
C'est pas le même budget, c'est pas les mêmes capacités d'accueil, c'est pas le même nombre de personnes qui organisent et c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont attendues, en priorité, entre guillemets. Mais oui, ça nous permet aussi de voir qu'est-ce que c'est qu'organiser ce genre d'événement et de voir aussi à quel point c'est important pour tout le monde. Parce que, en fait, avant même qu'on ouvre les inscriptions, on avait déjà reçu des mails de gens qui disaient « Ah, j'ai vu que vous commenciez à organiser les JCAS, je veux venir présenter mes travaux, je veux interagir, je viens de commencer une thèse, je commence une thèse dans 15 jours. » On avait déjà eu quelques messages. Je dis pas qu'on en a eu des dizaines, hein, mais
oui.
On en a eu quelques-uns, et juste de gens qui nous disaient, en fait, c'est ce lien, ces contacts, c'est vraiment important. Et limite, je pense que je m'en étais pas rendu compte, à quel point c'était important avant de me retrouver face à ces mails, tout simplement.
C'est ça.
Mais globalement, ouais, on en retire de l'expérience et du lien. Ouais, super. Ouais. J'imagine que c'est pareil pour vous deux.
Ouais, voilà, c'est...
Et plus précisément, pour nos auditeurs, peut-être qui aimeraient s'orienter vers des études d'acoustique, est-ce que vous pouvez nous décrire vos parcours pour justement en arriver au doctorat et à faire votre thèse et en arriver aussi au JCAS ?
Luna, je pense que si tu commences, c'est bien parce que tu as fait de l'acoustique depuis le début.
Moi, j'ai pas fait que de l'acoustique de base, mais moi, j'ai un bac scientifique que j'ai eu il y a de longues années maintenant.
Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus, exactement. Les bacs S n'existent plus.
Nous, on n'a pas passé ça.
mais oui, du coup, j'ai un bac S. Et après ce bac S, j'ai fait un BTS audiovisuel option son. Parce que ça m'intéressait. Il y avait des cours d'acoustique dedans, puis de base, la physique, j'aimais vraiment ça, et j'avais hésité un peu à partir, mais je me sentais pas de faire une prépa ou de faire des... J'avoue, en sortant de mon bac, j'en avais un peu marre de l'école. Je voulais faire autre chose.
Puis 8 ans après, elle est toujours là, quoi.
Ouais, puis 8 ans après, j'y suis encore, parce que j'y suis retournée, en fait.
Se débarrasser.
Ouais, mais non.
C'est pas si mal.
Non, c'était pas si mal. Non, et du coup, j'ai fait mon BTS, j'ai bossé pendant un an après, et puis j'ai débarqué au Mans en L2, mode bonjour, je viens apprendre des choses, je viens refaire de la physique, je viens réapprendre des maths, reprendre toutes les bases de maths, ça allait, c'était pas super loin. Il y avait un peu de boulot au début, et en fait, je me suis retrouvée juste passionnée, et j'avais envie d'apprendre plein de choses, et ouais, juste, c'était top, c'est vraiment une super formation. La fac, ça m'allait très bien. En plus, c'est des toutes petites promos qu'il y a ici. On est quoi? On est max 30 par classe. Pour des promos d'université, ça fait pas beaucoup. Et ouais, on a des travaux dirigés. On a quelques cours magistraux, mais c'est pas la majorité. Ou des fois, c'est des mix entre cours magistraux et travaux dirigés. Et l'idée, ouais, c'est d'apprendre en faisant, en parlant avec les professeurs. Et on a énormément de travaux pratiques de TP. Parce que, bah, on tâte la chose, on comprend vraiment ce qu'on fait. Et on a pas mal de projets longs aussi à côté. Ce qui nous permet de suivre un projet, d'approfondir des sujets, de pousser nos connaissances dans des thématiques plus précises qui ne font pas forcément partie du tronc commun de base. Et ouais, en fonction des envies de chacun et autres. Et du coup, moi j'ai fait la licence. Et après, ici, il y a plusieurs masters. Et moi, j'ai fait le master recherche en acoustique appliquée. Donc, très orienté recherche. Et je pense qu'assez vite, je me suis dit que les thèses, c'était cool. J'allais chercher un peu ça. Et mais ouais, voilà. Après, il y a d'autres... Il y a d'autres masters, il y a d'autres, orientations pour chacun. Il y a 4 masters différents. Il y a le master Wave, qui est un master international, qui est aussi axé recherche, et où tous les cours sont en anglais. Il y a le master IM2A, qui est aussi un master international, qui est plus orienté électroacoustique.
Fabriquer des haut-parleurs, pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui, entre autres. Ils font plein de choses. Et il y a le master AETBV, qui est en deuxième année, qui est une deuxième année de master et qui est en alternance. Et qui va du coup déjà orienter sur le chemin du travail. Et c'est beaucoup des bureaux d'études, des naval groupes. Il y a beaucoup de choses différentes en fait. Mais là où du coup ils ont directement les pieds en entreprise dès la dernière année de master.
Et toi, Anaïs, du coup ?
Moi, après le bac S, j'ai fait une classe préparatoire. Ensuite, je suis rentrée en école d'ingénieur, donc c'est assez classique. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'allais là où j'étais pas mauvaise, le plus large possible pour ne pas trop me spécifier. Et j'ai fait un premier stage dans un centre de recherche et développement en acoustique. Et donc, c'est là où j'ai découvert un peu le domaine. Ensuite, en dernière année d'école d'ingénieur, donc je me suis spécialisée là-dedans, une petite option où on apprenait des choses en plus sur le sujet. J'avais bien aimé ça en stage. Et stage de fin d'études, je vais en recherche à l'étranger, en acoustique aussi, parce que donc, c'était ma spécialité. Et surtout, moi, c'est l'étranger qui me faisait kiffer. Et après, donc, puis la recherche, j'ai bien aimé pendant ce dernier stage de fin d'études. Mais ma principale motivation pour faire un doctorat, c'est que je ne voulais pas faire un boulot d'adulte. Je voulais rester étudiante encore longtemps. J'aimais bien ce statut. Et le doctorat, ce qui est chouette, c'est qu'on a le statut étudiant. On a presque plus de cours et on est rémunéré. Donc franchement, on peut voyager aussi, soit par des partenariats, soit avec des conférences, comme on disait plus tôt. Donc tout ça, ça me branchait plutôt pas mal. C'est pour ça que je suis partie là-dedans. Et donc j'ai rien fait au Mans jusqu'à ce que j'arrive en doctorat. Parce que le Mans, ils sont très forts en acoustique. Donc les collaborations avec eux, c'est pas mal.
Et alors, j'ai fait bac S aussi. Et moi, après, même en terminale, ce que je voulais faire, c'était de l'astrophysique. Donc aucun rapport avec ce que je fais actuellement. Et je voulais surtout faire plein de maths et plein de physique fondamentale, parce que j'adore ça. Et donc, j'ai fait une classe prépa et après la prépa, j'ai intégré l'ENS de Paris dans le département de mathématiques. Et après, je me suis rendu compte que les maths fondas, c'était un peu trop fondamental pour moi. Donc, je suis partie en physique fondamentale et je me suis rendu compte que la physique fondamentale, c'était trop fondamental pour moi aussi. Du coup, alors, l'avantage de l'ENS Paris, enfin, il n'y a pas que l'ENS Paris qui a ça, mais voilà, c'est que tu as vraiment plein de départements et surtout que si tu veux changer de département, tu peux et juste tu dis tes motivations et on te laissera faire. Du coup, j'ai fait une année de sciences cognitives et j'ai découvert la perception auditive. Je me suis dit, c'est trop bien. Et pendant cette année de perception de sciences cognitives, un prof m'a redirigé vers le master ATIAM, donc acoustique, traitement du signal, informatique appliquée à la musique, qui est fait par l'IRCAM, donc Institut de recherche et création en acoustique musicale, si je ne me trompe pas.
En gros, c'est un labo d'acoustique à Paris.
C'est un labo d'acoustique à Paris.
Un des grands labos d'acoustique.
Donc, j'ai fait mon M2 là-bas et ça m'a plu. Donc, je suis arrivée ici complètement par hasard, mais au final, j'ai bien aimé.
Mais du coup, on peut finir en doctorat en commençant de plein d'endroits différents.
Oui, une diversité de parcours. Ouais. Quoi.
Après, doctorat en sciences, en général, il y a un lycée, des spécialités scientifiques quand même dès le lycée, mais. Peu importe ce qui se passe directement après le bac.
Il y a plein de chemins. Il y a des gens qui reprennent bien plus tard. Il y a des gens qui poussent jusqu'à la licence, jusqu'au master, qui font une pause, qui travaillent un peu, qui reprennent sur une thèse après.
Mais ça montre que toute réorientation est possible, finalement. C'est rassurant aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à un seul parcours toute sa vie. Quoi.
Ouais, complètement.
Anaïs et Luna, vous êtes en co-tutelle avec l'Université de Sherbrooke au Québec. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est une co-tutelle ?
Une co-tutelle, c'est un double diplôme, mais pour le doctorat, comme un master en double diplôme, mais là pour le doctorat. Donc ça veut dire qu'on travaille avec deux laboratoires. Donc en France, nous deux, c'est le LOM. Et au Québec, c'est un autre laboratoire de l'université dans la ville où on est au Québec. Et on doit faire minimum un an dans chaque pays. Donc, ça nous permet d'être sur deux établissements différents. Donc, on découvre deux façons de fonctionner, deux cultures aussi. Ça, c'est le plus.
Deux façons de fonctionner, c'est vraiment intéressant parce que tous les labos ont leur fonctionnement. Pour des labos universitaires, en plus, c'est associé aux universités dans lesquelles ils sont intégrés.
Puis université nord-américaine, on sait que c'est pas exactement pareil que l'université française.
Oui. Et là, c'est bien différent, du coup, les deux.
Et puis, donc, on travaille avec plus de chercheurs différents aussi, puisqu'on a à la fois des collègues différents au sein des étudiants, puis des professeurs différents. Et,
des spécialités différentes, en fonction des endroits où on est.
Et on n'a qu'une soutenance, mais on a deux diplômes.
C'est vrai.
Et donc, vous avez déjà fait l'année au Québec, du coup?
Ou c'est en cours.
Ouais, moi je l'ai déjà fait.
Ok.
Et Luna elle est revenue.
Moi je suis revenue pour les fêtes et j'ai traîné un petit peu.
Ok.
mais du coup oui non je repars à la fin de la semaine.
Ok.
Très vite.
D'accord.
Okay. Pour la suite en fait à Sherbrooke et voilà.
Et vous êtes plusieurs à partir en même temps. Et où t'es vraiment toute seule
Cette session-là, parce que toi aussi tu pars
Moi aussi je pars.
On est trois à partir en même temps.
Ok.
En fait, ça dépend un peu de nos contrats.
Ça dépend des années,
Comme on est tout seul à travailler, le sujet de thèse, on est seul à travailler dessus, encadré par des professeurs, c'est assez facile à s'organiser. On peut choisir. Puis à force d'aller-retour, on rencontre quand même des gens, on retrouve des gens. Moi, Luna, je ne la connaissais pas il y a 2 ans. Puis maintenant, on travaille ensemble, ensemble dans n'importe quel pays. Donc, ouais. Et d'ailleurs, il y a un double diplôme master qui va ouvrir entre Le Mans et Sherbrooke. C'était juste des thèses. Puis maintenant, ça va être ouvert au master.
C'est comme pour les thèses, en fait, ce n'est pas des échanges qui sont normés. C'est vraiment du cas par cas. Ça adapte beaucoup, ça s'adapte aussi aux contraintes de l'emploi du temps. Là, avec la biennale, c'était logique qu'on revienne. Et en plus, notre encadrant est rentré aussi. Et c'est surtout... Il n'y a pas de planning absolument spécifique. C'est des plannings qu'on définit à l'avance, qui s'adaptent en fonction des recherches qu'on fait, des spécialités que l'on traite.
Puis donc, il y a des doctorats entre universités de différents pays. Des fois, ça va être plusieurs universités d'un même pays, ça arrive. Et des fois, il y a avec entreprises aussi. On peut travailler avec la fac, bah, il y a toujours une fac quand même, un laboratoire et une entreprise. Puis des fois, il y en a qui ont les trois en même temps, donc qui sont avec l'université française, une étrangère et une entreprise. Plein de modèles différents.
Quel rôle l'université de Sherbrooke joue-t-elle dans le domaine de l'acoustique ?
Sherbrooke, c'est un... le CRACH, le Centre de Recherche Acoustique Signal Humain. Alors, ça va être petit comparé au LOM.
C'est le plus gros du Canada, mais c'est aussi un Canada. Des seuls.
Et c'est un des rares francophones aussi. Ils ont beaucoup plus de recherches orientées bioacoustique que ce qu'on va avoir ici, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus de liens avec la médecine. Il y a beaucoup de... c'est des thématiques... On peut même dire que c'est des colorations apportées par les chercheurs qui appartiennent au laboratoire, en fait. C'est en fonction de leur spécialité à eux. Il y a une belle spécialité vibra. Il y a une grosse, grosse, grosse spécialité aéroac. Le Mans est pas mal non plus. Mais ouais, à Sherbrooke, c'est vraiment l'aéroac. Je pense que...
Ultrasons aussi.
Oui,
tout ultrasons. Imagerie médicale, imagerie comme tu médicale, disais.
Ouais. Mais à Sherbrooke, il y a une infrastructure qu'il n'y a pas ici. Il y a donc une salle anéchoïque. Enfin, il y a une semi-anéchoïque aussi, mais il y a une salle entièrement anéchoïque.
Ce donc une chambre, aussi... soudre, une chambre sourde.
Également voilà. Une chambre sourde. Enfin, c'est la même,
oui.
C'est
la même salle. Traduit, juste. Oui.
Et donc ça, il y en a au LOM aussi. Par contre, dans celle de Sherbrooke, il y a une soufflerie.
D'accord. Soufflerie, c'est un gros tube qui va souffler du vent jusqu'à 110 km/h, je crois. 130,
au-dessus, non
je pas sais. Beaucoup plus, mais 130 mais km/h.
C'est violent quand même.
Mais c'est dans une chambre sourde, et du coup, on ne l'entend pas. Et donc, c'est pas mal pour faire des essais, par exemple, sur des ailes d'avion. C'est l'exemple le plus basique qu'on utilise pour étudier les vibrations et le son d'une aile d'avion soumise à un vent.
Les perturbations engendré par la forme de l'aile d'avion, par la... J'ai oublié le nom.
Le fuselage de...
Ouais.
Non.
C'est vraiment la forme de...
Oui.
C'est pas notre domaine.
écoutez, en tout cas, merci à toutes les trois d'être venues dans l'amphi et d'avoir répondu à nos questions. On pourra retrouver toutes les informations sur les journées jeunes chercheurs sur le site de radioalpa.com. Sinon, est-ce qu'on peut regarder un autre endroit
On a un site aussi,
ouais.
GGCAS 2026.
D'accord, moi je le mettrai en description aussi. Et puis aussi, nous suivrons ces journées de près, puisque Lisa, tu vas t'y rendre avec Charlie Pless, qui anime CEDACTU à 18h du lundi au vendredi. Je vous propose de terminer l'émission avec une dernière pause musicale, Flesh Without Blood, Grimes. la fin de cette émission. Effectivement, nous n'aurons pas eu le temps de faire la chronique de Lisa, de son entretien avec Anne-Julie Rollet. Mais c'est pas grave parce que c'était super intéressant. La chronique de Lisa, on la fera jeudi. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion de 9h à 10h demain sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour la playlist de l'amphi.
Présenté par elle.